Donc bonjour à toutes et à tous. En tout cas, c'est toujours une joie pour moi d'être parmi vous. Et content aussi de voir certains visages qui sont rentrés de vacances. Donc ça fait plaisir en tout cas de vous voir. Et je me réjouis aussi aujourd'hui de pouvoir nous conduire dans l'étude de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons notre série de prédications sur les paraboles. Donc pour ceux qui sont là peut-être pour la première fois, donc cet été, nous entamons une série de prédications sur les paraboles de Jésus. Et celle que nous allons voir aujourd'hui est pour moi une des plus surprenantes. Mais avant que nous la méditions, j'aimerais rappeler brièvement le contexte. Comme pasteur Philippe l'a mentionné la semaine dernière, la partie centrale de l'évangile se trouve des chapitres 9 à 19. Et dans cette partie centrale, Jésus est en marche vers Jérusalem. Et durant justement son voyage vers Jérusalem, le Seigneur va donner un bon nombre d'enseignements. Et on y trouve dans cette section centrale une quinzaine de paraboles qui sont propres à l'évangéliste Luc. Et nous avons vu il y a 2 semaines un enseignement sur l'amour avec la parabole connue du bon samaritain. La semaine dernière, le thème de la joie avec la parabole de la brebis perdue. Et aujourd'hui, avec notre parabole du gestionnaire astucieux, ou qui est aussi appelée la parabole de l'intendant malhonnête, nous abordons la gestion des biens matériels et de l'argent. Et je rappelle que les enseignements de Jésus ont pour but d'apprendre à ses disciples comment ils doivent vivre, et bien sûr, par extension, tous ceux qui décideront de le suivre. Voyons maintenant ce que Jésus veut enseigner avec cette parabole, et ce qu'on peut en tirer comme leçon pour nous, Église de Saint-Maur. Sinon, cette semaine, j'ai découvert sur le site topchrétien.com que les évangiles étaient disponibles en vidéo. En tout cas, je remercie Dieu pour les personnes qui ont mis en place ce genre de projet, donc avoir la Bible en vidéo. Bon, après, pour l'instant, seulement les évangiles sont disponibles, mais je me dis que c'est déjà un gros travail qui a été fait. Et donc aujourd'hui, juste avant de rentrer en profondeur dans le texte, donc Alain nous l'a déjà lu, mais je propose qu'on puisse visionner cette parabole. Merci à notre équipe technique pour pouvoir aussi bénéficier de cette technologie. Et juste pour savoir qui connaissait ce site et qu'on pouvait regarder les évangiles en vidéo, juste un sondage. En tout cas, je trouve ça génial. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je trouve ça top. Bon, maintenant, pour ceux qui ne le savaient pas, vous le saurez que vous pouvez visionner les vidéos des évangiles. En plus, ils restent fiables au texte. Et après, cela doit être un plus par rapport à notre lecture de la parole. Aussi, sachez que je n'ai pas de commission sur ce site. On ne me paye pas pour faire de la pub. Bien, revenons donc à notre texte biblique. Dimanche dernier, pasteur Philippe nous a rappelé que dans le chapitre 15, les 3 paraboles que Jésus raconte visaient en particulier les pharisiens et les spécialistes de la loi. Même si les gens qui étaient autour de Jésus pouvaient entendre son enseignement, il est important de prendre en compte le contexte pour comprendre le message central de la parabole. Et dans notre texte, c'est aux disciples qu'il raconte cette parabole. Donc on le voit au verset 1. Même si nous savons que des pharisiens ne se trouvaient pas loin et pouvaient entendre ce que disait Jésus. Et Jésus, ici, veut précisément donner une leçon aux disciples. Et l'histoire qu'il utilise est une des plus courantes de l'époque et que nous pouvons également rencontrer de nos jours. Donc un riche dans le domaine agricole embauche une personne, un intendant. Et celui-ci il a la responsabilité de s'occuper des affaires de son maître, de gérer tous ses biens. Et justement, dans l'histoire, le maître, l'homme riche, apprend que son intendant gère mal ses affaires. Et ce qui n'est pas précisé dans le texte, c'est qu'on ne sait pas de quelle manière l'intendant gaspillait les biens de son maître. Si c'était parce qu'il gère mal les comptes, si c'était pour faire plaisir à sa famille, ses proches, ou comme le fils prodigue, en vivant dans la débauche. Et de plus, on ne sait pas par qui le maître apprend que son intendant gaspille ses biens. Et on aurait pu se demander si les accusations portées contre son gérant étaient fondées. Mais la suite du texte, verset 3 et suivant, affirme qu'effectivement, l'intendant n'est pas honnête. Il ne se défend pas et cherche déjà une solution pour s'en sortir. Et du verset 5 à 7, on voit l'intendant mettre en place un plan d'action pour se tirer d'affaire. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle tous les gens, donc probablement des marchands, qui doivent de l'argent à son maître, et il les arrange pour que, dans l'avenir, ils se souviennent de lui. Et jusqu'ici, je pense qu'on a bien cerné la scène. Ce qui est plus étonnant et dont on a plus de mal à comprendre, c'est la réaction du maître au verset 8. Au lieu d'être en colère, de faire des reproches à son intendant, au contraire, il admire la façon dont il s'en est sorti pour ne pas se retrouver dans une situation précaire. Et le texte précise que le maître fait l'éloge de son gérant pour son habileté, c'est-à-dire sa capacité à réfléchir pour s'en sortir, et non pour sa malhonnêteté. Je ne sais pas, vous vous imaginez être à la place du maître, des personnes vous doivent tant d'argent, et vous apprenez que votre intendant que vous avez mis à la porte a baissé la somme qu'il vous devait. Déjà, il gère mal vos affaires, et en plus de ça, il vous fait perdre de l'argent. Je pense qu'on serait bien tous énervés et qu'on lui en voudrait. Alors que là, le maître, lui, admire son habileté. Et ensuite, après la réaction inattendue du maître, Jésus ajoute ce commentaire. Que les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne sont les enfants de la lumière. Et en disant cela, Jésus fait remarquer aux disciples que les gens de ce monde ne manquent pas d'idées lorsqu'il s'agit de servir leurs propres intérêts. Qu'ils savent gérer les biens dont ils disposent juste pour eux-mêmes. Et nous le voyons bien avec l'exemple de l'intendant. Et donc, Jésus veut que ses disciples fassent également preuve d'ingéniosité en ce qui concerne les affaires du royaume. Et après cette remarque, Jésus fait cette déclaration surprenante au verset suivant, au verset 9. Et voici ce qu'il dit. « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. » Qu'est-ce que Jésus veut enseigner aux disciples? Quel est le sens de cette phrase que Jésus prononce? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué lorsqu'on a commencé cette série des paraboles, que dans une parabole, il y a un message central et que bien souvent, le message central, il se trouve à la fin. Et c'est le cas ici, au verset 9. Le message que Jésus veut transmettre à ses disciples se trouve dans cette déclaration. Et pour ça, nous avons besoin de comprendre certains termes. Tout d'abord, c'est quoi les richesses injustes? L'expression est comprise de différentes manières, mais je me joins à ce qu'un de mes professeurs en théologie à l'Institut biblique pense. Et voici ce qu'il dit. Les richesses injustes, ce sont les biens de ce monde. Elles sont en même temps présentées comme le bien d'autrui. Ce peut être une manière de dire que ces biens se trouvent provisoirement à notre disposition, comme les biens du maître confiés puis retirés à l'intendant, puisque nous ne les emporterons pas dans la tombe. Justement, qu'est-ce que Jésus veut que nous fassions de notre richesse injuste, de nos biens, de nos ressources dans ce monde? De nous faire des amis. Toujours au verset 9. Et pour quelle raison? Afin qu'il nous accueille dans les habitations éternelles lorsque nos richesses viendront à manquer. Mais comment pouvons-nous nous faire des amis? Eh bien, en usant de nos biens, de nos ressources pour aider un frère, une sœur qui est dans le besoin, mais également une personne de notre entourage dont nous savons qu'il manque de moyens. Ça peut être un collègue de travail, notre voisin, notre coéquipier au club de sport, etc., etc. Et vous savez, Jésus n'a pas pris l'exemple du gérant astucieux pour sa malhonnêteté, en réduisant les dettes des personnes à qui devaient de l'argent à son maître, mais pour son ingéniosité à savoir gérer les biens qui ne lui appartenaient pas pour se tirer, pour tisser déjà de bonnes relations et pour se préparer un avenir. Et donc, comme l'intendant, nous devons faire preuve d'intelligence dans nos biens, dans nos ressources que Dieu nous a confiées ici-bas, pour sa gloire. L'usage qu'on a de nos biens matériels, de notre richesse, doivent servir à nous faire des amis pour être accueillis par eux lorsque l'argent viendra à nous manquer. Et voici une histoire qui pourrait t'arriver. Vous avez un voisin avec qui vous faites connaissance. Et au fil de la discussion, vous vous apercevez qu'il a un petit souci d'argent, qu'il lui manque 200 euros pour pouvoir payer son loyer. Après que vous ayez fini de lui parler, vous proposez de l'aider et de lui donner l'argent manquant. Ce geste le touche et petit à petit, vous commencez à tisser des liens d'amitié. Et vous avez l'occasion de lui témoigner l'évangile, que la Bible invite à la générosité, que si vous travaillez, ce n'est pas simplement pour vous enrichir, mais également pour secourir ceux qui sont dans le besoin. Et par ce geste de générosité, et après plusieurs échanges sur la parole, votre voisin décide de se convertir. Et si un jour votre voisin s'en va rejoindre le Seigneur avant vous, il sera là pour vous accueillir et vous louerez ensemble Jésus. Frères et sœurs, gérons nos biens, nos ressources en vue du royaume. Tout dans notre vie, ce que nous possédons, nos biens matériels, nos richesses, ce que nous faisons, doivent être pour la gloire de Dieu. Et nous sommes revenus de vacances, mon épouse et les enfants, donc il y avait aussi mon grand frère et ma petite sœur. Et après être rentrés, on a fait rapidement les comptes. Voilà, voir un peu le budget qu'on avait dépensé. Et franchement, il y avait une certaine somme d'argent. Pour les vacances, les projets professionnels, les projets personnels, on est prêt à dépenser parfois beaucoup d'argent et également de prendre du temps pour passer des vacances. Mais qu'en est-il du royaume ? Est-ce que je mets également de l'argent de côté pour pouvoir soutenir un missionnaire ou une œuvre chrétienne comme je le fais pour préparer mon prochain voyage ? Est-ce que je prends le temps d'aller donner un coup de main à l'Institut biblique, par exemple, pour des travaux, comme quand je prends le temps d'aller jouer au foot ? Est-ce que quand je fais les courses, je cherche qu'à me faire plaisir ? Ou il m'arrive aussi de penser à mes collègues pour leur apporter voilà, le petit café, les petits croissants ? Mes amis, si nous sommes attachés à Dieu, nos biens, nos ressources serviront à la gloire de Dieu. C'est bien ce que Jésus veut que nous fassions. Et c'est la raison pour laquelle il dit dans les versets 10 à 12 que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si déjà nous ne sommes pas fidèles dans la gestion de nos biens, de nos ressources dans ce monde, qui un jour disparaîtra, car nous n'emporterons rien dans la tombe, ne pensons pas que Dieu nous confiera les biens, les richesses du royaume qui, elles, sont éternelles. Oui, les richesses véritables sont celles du royaume, car elles, nous les posséderons pour l'éternité. Et sachons qu'on aura tous, je dis bien tous, des comptes à rendre. Oui, Dieu nous demandera « Qu'avons-nous fait des biens, des ressources dont il nous a accordés sur terre ? » Est-ce seulement pour nous-mêmes, pour notre bien-être, ou bien pour l'avancement de son royaume ? Et j'apprécie ce que dit un professeur de théologie à ce propos.
De notre fidélité dépendra ce que Dieu nous accordera dans le monde à venir. De notre fidélité dépendra ce que Dieu nous accordera dans le monde à venir. Nous devons rester fidèles à Dieu dans la gestion de nos biens, des richesses qu'il nous accorde, avec de bons motifs, une bonne conscience, car nous savons très bien que nous pouvons user de nos biens pour diverses raisons, mais qui, au fond, ne sont pas bonnes. Et c'est bien là l'idée du verset 13. Sachons aussi que Dieu sonde les cœurs. Il connaît tous la pensée, toutes nos pensées, toute la profondeur de nos motivations. On peut très bien le cacher aux hommes, mais pas à Dieu. Lui, il sait si nous l'adorons ou bien si nous adorons l'argent. Et pour conclure, nous avons vu que c'est une parabole qui peut peut-être être choquante avec la réaction inattendue du maître face à l'intelligence de son intendant à gérer ses affaires pour s'en sortir. Mais nous avons observé que l'intendant a été admiré pour son habileté et non sa malhonnêteté. Et que les chrétiens doivent également faire preuve d'ingéniosité dans la gestion que Dieu nous confie sur terre. Que la gestion de nos biens, nos ressources, ne soit pas simplement pour servir nos propres intérêts, mais pour celui du royaume. Tout dans notre vie doit contribuer à la gloire de Dieu. Oui, frères et sœurs, soyons fidèles à Dieu, car nous aurons, comme je le répète, des comptes à rendre. Et je vous demande seulement une chose pour cette semaine, de prendre un temps pour prier précisément pour ce sujet, de demander à Dieu, « Tu vois la façon dont je gère mes biens, mon argent, guide-moi pour que je sache concrètement utiliser mes biens, mon argent pour l'avancement de ton royaume. » Et ça peut être ouvrir un compte et mettre de l'argent de côté pour subvenir aux besoins de mon entourage qui un jour seront en difficulté, m'engager à soutenir une œuvre chrétienne, m'aider à être plus hospitalier, me permettre d'être une personne plus généreuse. Que durant cette semaine, nous pouvons vraiment prier, prendre un temps pour prier pour ce sujet. La gestion de nos biens, de nos ressources. Que Dieu nous aide à grandir dans un domaine. Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions pour l'avancement de son royaume? Et donc, je vous invite simplement à vous lever. Nous allons prier pour clôturer ce message. Notre Dieu, notre Père, nous voulons encore une fois te dire merci. Merci parce que tu es souverain. Merci parce que c'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être, Seigneur. Et Seigneur, merci encore pour ta parole, parce que c'est par elle que nous pouvons te connaître, c'est par elle que nous pouvons nous conformer à ce que toi tu désires. Et Seigneur, tu vois que dans la vie, ce n'est pas toujours facile de pouvoir utiliser nos biens, nos ressources pour ta gloire, mais Seigneur, par ton esprit, aide-nous à réfléchir à comment nous nous servons de notre argent, de nos richesses, pour mieux servir ton royaume, Seigneur. Que dans nos réflexions, nous puissions plus penser à ce que nous pouvons faire pour les autres et pas que pour nos propres intérêts, Seigneur. Et Père, tout ceci, nous te le prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.